Dans l'épître de Pierre, tout d'abord. Donc, c'est la première épître de Pierre au chapitre 5. Verset 10. 1 Pierre, chapitre 5, verset 10. On a là le cap que Dieu nous a donné et vers lequel il faut toujours regarder. En tout cas, il ne faut pas le perdre de vue. Sinon, on pourrait peut-être partir de travers. Voilà. 1 Pierre 5, 10. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, c'est dans votre Bible ça aussi, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera et vous rendra inébranlable. C'est grand ça. C'est le plan de Dieu pour chacune et chacun d'entre nous. Voilà ce que Dieu veut faire. Non, non, Dieu ne veut pas que nous restions des petits-enfants, sauf si on prend la simplicité de la foi, si vous voulez. Mais après, dans le domaine même de la foi et de l'expérience, nous sommes appelés à grandir, à grandir, à grandir. Et Dieu a sa méthode, ou sa pédagogie plutôt, pour nous faire grandir. Je vais lire un autre texte, toujours dans l'épître, la première épître de Pierre, au chapitre 1er. Verset 3, 1 Pierre 1, 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon la grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir. Il vous est réservé dans les cieux, à vous qui, par la puissance de Dieu, être gardé par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Voilà vers où nous nous dirigeons. Hein, le salut que Dieu va révéler et qu'il va manifester avec puissance. C'est là ce qui fait votre joie. Alléluia. Quoique, alors ça là, de suite c'est le bémol hein, dans la partition. Quoique, maintenant, puis comme si Pierre devait en rajouter une couche, puisqu'il le faut. Déjà, le quoique nous gêne, mais après, le puisqu'il le faut, ça veut dire que c'est incontournable, ça fait partie du programme. Vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Mais voilà, il y a une finalité. Afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Vous l'aimez sans l'avoir vu, vous croyez en lui sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie merveilleuse et glorieuse parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Non, ça va, je ne vous ai pas attristé, c'est bon. Et dans la deuxième épître de Paul aux Thessaloniciens, j'aimerais juste évoquer un verset ou deux, toujours sur le cap final, la destination. Donc, c'est 2 Thessaloniciens, chapitre 1. Alors, je vais lire les versets 9 et 10. Il faudrait lire un peu en amont, mais il est question du retour de Jésus et de ceux qui seront restés rebelles, ils subiront donc le châtiment. Et voici ce que Paul dit dans 2 Thessaloniciens 1, 9, donc en parlant des rebelles, « Ils auront pour châtiment une ruine éternelle, selon loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force, lorsqu'il viendra en ce jour-là pour être glorifié dans ses saints et admiré dans tous ceux qui auront cru. » Glorifié dans ses saints et admiré donc, dans tous ceux qui auront cru. Voilà la ligne d'arrivée. Voilà où il nous faut être présents. Le Seigneur reviendra et ses saints avec lui, dit l'Écriture. Il y aura la première phase, l'enlèvement de l'Église, mais après, Jésus-Christ reviendra et tous ses saints avec lui, et nous serons là dans la révélation de la gloire de Dieu. En fait, ce que Dieu veut, c'est que nous ayons une foi qui soit parvenue donc à maturité, et cette foi, elle contribue à sa gloire, à lui. Bien sûr, cette foi, elle a besoin d'être travaillée. Cette foi, elle a besoin d'être exercée. Cette foi, elle a besoin parfois d'être consolidée, etc. Car, au final, notre foi doit être une foi parvenue à une pleine maturité, et c'est en cela qu'elle sera glorifiée. Alors, le « quoique maintenant, puisque le faut, vous soyez attristé par diverses épreuves », et le mot qui est traduit, par « épreuve » vient d'un verbe qui signifie « mettre à l'épreuve », mais non pas dans le sens d'attrister, dans le sens de « faire approuver », « juger bon ». On met quelqu'un à l'épreuve et le résultat montre qu'il est fiable. Voilà, c'est dans ce sens-là, être fiable. Ce n'est pas mettre à l'épreuve dans le but de décourager, dans le but d'attrister. Non, mettre à l'épreuve, mais dans le sens de mettre en lumière, de mettre en évidence, finalement, que la personne est bien fiable. Et quand Dieu permet l'épreuve de notre foi, c'est pour montrer, en effet, que notre foi est bien fiable. C'est une foi de qualité. C'est là ce que Dieu attend. Une foi qui a fait ses preuves, si vous voulez. Voilà, on pourrait résumer ça comme ça. Une foi qui a fait ses preuves. Mais pour qu'elle fasse ses preuves, il faut qu'elle soit soumise à l'épreuve. Voilà. On ne peut pas savoir si la foi a fait ses preuves si elle n'a pas été mise dans des conditions où il a fallu l'exercer. Notre Dieu est un Dieu, un grand pédagogue, très grand pédagogue, et donc il ne demande pas des choses qui sont au-dessus de nos forces du jour au lendemain. Il travaille notre foi, il prévoit des exercices avec des difficultés de plus en plus grandes, pour qu'elle se fortifie, elle s'enracine, elle devienne solide et que nous soyons après en mesure d'encourager les autres, de leur parler, de dire « Ah ben oui, j'y suis passé moi aussi, je comprends ce que vous endurez, je comprends votre questionnement, je suis passé par là, mais Dieu a été fidèle. » Voilà. Et notre témoignage encourage les autres. Et nous sommes appelés à faire cela, à encourager les autres, et étant passés nous-mêmes par des expériences au cours desquelles nous avons appris à faire confiance à Dieu. Alors, j'aimerais voir les différents cours auxquels le Seigneur nous soumet pour à l'école de la foi, pour donc faire travailler cette foi et faire en sorte qu'elle devienne plus forte et plus solide, voire peut-être plus sage. Parce qu'au début, quand on connaît le Seigneur, on a une foi qui part dans tous les sens, et certains d'entre nous, peut-être, se souviennent-ils d'avoir fait quelques erreurs dans un excès de zèle et d'enthousiasme, ou dans un excès de foi qui n'en était pas trop, c'était simplement un excès d'enthousiasme. Donc avec le temps, le Seigneur donne à notre foi de la maturité, pour savoir discerner ce qui est bon et ce qui est meilleur. Alors, une des écoles à laquelle Dieu peut nous soumettre, c'est la suivante, c'est nous faire des promesses qui, a priori, paraissent irréalisables, et même faire ces promesses dans des conditions hostiles. Et on se dit, alors en bon cartésien français, c'est pas possible, ça ne pourra jamais arriver. Ce n'est pas chose possible. Eh bien, parfois, il y a des étapes dans la vie où Dieu nous fait des grandes promesses ou des choses qui nous paraissent irréalisables, d'autant plus que nous sommes peut-être en situation de faiblesse ou de fragilité. Et là, Dieu nous demande de croire dans quelque chose qui n'est pas normalement et humainement réalisable. Ça arrive parfois. J'ai eu une période où, comme ça, j'avais des doutes. Et le Seigneur m'a dit, eh bien, j'ouvrirai une voie au milieu des montagnes. J'avais l'impression qu'il y avait des montagnes devant moi et que j'arriverais jamais à ce que Dieu avait promis. Et le Seigneur, un jour, m'avait encouragé en disant, mais j'ouvrirai une voie à travers les montagnes, une route. Et avec le recul, je peux dire que c'est ce qui s'est passé. Mais quand j'étais devant les montagnes, j'avais un peu de mal à croire que j'allais passer les montagnes. Et pourtant, Dieu m'y a aidé. Alors, dans la Bible, vous avez des exemples intéressants. C'est quand Dieu a annoncé donc à Abraham qu'il allait avoir une postérité. C'était irréalisable, absolument irréalisable. Et pourtant, il est dit qu'Abraham a fait confiance à Dieu. Il y a cru. La Bible raconte aussi dans l'histoire d'Israël, dans l'histoire des rois d'Israël, le siège de la ville de Samarie. C'est dans le deuxième livre des rois, au chapitre 7. Et la ville a été encerclée par les armées syriennes, il me semble. Et le siège a duré longtemps, au point qu'on n'avait plus rien à manger. Et on en est même arrivé à manger ses propres enfants, puisqu'il y a un récit qui le dit. Donc c'est dire si la famine était sévère et un contexte extrêmement difficile donc, pour vivre. Et là, dans ce contexte-là, il y a un prophète, Élisée, qui dit, « Eh bien, demain, vous aurez de la farine pour pas très cher, des 11 litres de farine pour pas très cher et 22 litres d'orge, je crois, pour la même somme. » Et l'officier du roi qui arrive, pour arrêter le prophète d'ailleurs, il entend cette phrase et dit « c'est pas possible, quand bien même Dieu ferait des fenêtres au ciel, pareille chose pourrait-elle arriver ?» Pour lui, militairement parlant, raisonnablement parlant, en faisant les calculs sur le papier, ça n'était pas possible. C'était invraisemblable, c'était une parole folle. Et vous vous souvenez de la remarque du prophète, tu le verras de tes yeux et tu n'en mangeras pas. En effet, il s'est passé quelque chose à l'extérieur de la ville, des lépreux. se sont dit, bon allez, allons nous jeter de toute façon entre les mains des adversaires, parce que mourir pour mourir, de la maladie ou d'autre chose, eh bien, mourons. Et lorsqu'ils sont entrés dans le camp adverse, il n'y avait plus personne. On a trouvé des stocks d'affaires, des armes, on a trouvé de la nourriture, ils n'avaient pas emporté les sacs de farine, et ils se sont jetés sur le butin, et puis tout à coup ils ont une lueur, leur conscience parle, et se dit quand même, on a plus qu'il nous en faut, et à l'intérieur de la ville ils sont en train de mourir de faim. C'est quand même injuste, on ne peut pas rester dans cette position. Alors ils ont fait savoir, et en effet, dans les heures qui ont suivi, après avoir vérifié, il y avait de la farine, il y avait de l'orge à vendre, selon l'argent ou la somme d'argent qu'avait dit le prophète. C'était invraisemblable pour l'officier du roi, et pourtant, ça c'est bien arrivé, comme l'a dit le prophète. Il y a la parole, quand Jésus s'adresse à un paralytique qui est paralysé de 38 ans, et qui lui dit « Lève-toi et marche ben, ». Raisonnablement, et un bon cartésien, encore une fois, on dit « Attends, ça fait 38 ans que je suis comme ça. Et tu me dis là, comme ça, floup, lève-toi et marche. » C'est facile à dire, mais faire, c'est autre chose. Le texte biblique ne nous rapporte pas un échange, une conversation entre Jésus et l'impotent, et on ne voit pas dans le texte biblique, dans le récit biblique, l'impotent discuter avec Jésus en disant « mais ce n'est pas possible de me lever, je suis impotent depuis 38 ans ». Et il aurait eu l'argument facile. Ça fait 38 ans que ça dure, et ce n'est pas sur une phrase comme ça que je vais me lever. Mais cet homme a cru la parole de Jésus. Il a cru ce que Jésus lui a dit, alors que c'était quelque chose d'irréalisable humainement. Mais voilà que, parce qu'il a cru, C'est pas sa foi qui l'a guéri, c'est le Seigneur. Sa foi, ça a été de s'accrocher à la parole de Jésus, de se cramponner à cette parole, et parce qu'il y a cru, parce qu'il a fait confiance au Seigneur, Dieu a agi en sa faveur. Parce que la foi nous rend agréable à Dieu et nous place sur un terrain favorable qui permet au Seigneur d'agir pour nous. Donc, ça peut arriver que parfois Dieu nous fasse une promesse, mais on dit, bon, c'est pas possible. Et même si ça arrivait, mais comment ça peut arriver? Parce que ça nous paraît irréalisable. Mais Dieu est souverain. Il maîtrise les circonstances, il maîtrise le temps. Il ne va pas toujours aussi vite que ce qu'on voudrait, mais quand Dieu a dit quelque chose, il s'y tient et il le fait. La deuxième école à laquelle Dieu peut soumettre notre foi, c'est celle du facteur temps. C'est assez difficile comme école, parce que, comme je disais, je crois, hier soir, nous sommes dressés à l'urgence. Nous, il faut que ça aille vite, il faut que ça défile. Quand on se souvient de nos ordinateurs des années 90 et qu'on regarde aujourd'hui, on se dit, c'est pas possible, je pouvais attendre si longtemps que ça se charge. Maintenant, à peine on a allumé l'ordinateur, qu'il est chargé, et voilà, on a accès aux fichiers. Et ça va toujours plus vite, on nous sort toujours des ordinateurs plus puissants. Et quand on amène son ordinateur au magasin pour le réparer, ça m'est arrivé une fois, et qu'il a 5 ans, le vendeur vous dit « Oh, mais c'est une vieille bête !» Et vous avez l'impression de venir d'un autre siècle, tellement ça va vite. Et c'est comme ça qu'un journaliste dans Le Monde a écrit que nous étions dressés de plus en plus à l'urgence. Faut être réactif, c'est le mot à la mode. Faut être réactif. Et parfois, Dieu n'est pas réactif. Il est dans un autre siècle. Il n'est pas réactif. Parce que le temps est aussi une école au travers de laquelle il forge notre foi. On ne voit rien arriver, rien ne se passe, mais ça ne veut pas dire que Dieu nous a oubliés. Ça ne veut pas dire que Dieu ne pense plus à ce qu'il a dit ou à la promesse qu'il nous a faite. Non, non, il attend simplement le bon moment, les circonstances les plus propices pour réaliser sa promesse. Et parfois même, il arrive que Dieu combine plusieurs éléments. Ça peut arriver. Donc, Dieu a un calendrier pour révéler sa science, sa sagesse et sa puissance. Et ça n'est pas toujours facile d'entrer pour nous dans ce calendrier, nous qui sommes habitués à accélérer le temps. Si vous allez faire un séjour en Polynésie française ou en Afrique, là, il faudra apprendre avec le temps, à vivre avec le temps qui s'écoule lentement. Ça n'a rien à voir avec la vie en métropole en France métropolitaine. Abraham a été soumis à cette école. Quand Dieu lui a dit « Tu auras une postérité aussi nombreuse que le ciel », peut-être qu'il a pensé que l'année suivante, ça commencerait. Mais l'année suivante, ça n'a pas commencé. Il a fallu attendre 25 ans. Et même, on sait que dans ces 25 ans, à un moment donné, Abraham a cherché une solution humaine. Moïse, quand il est sorti des hautes écoles de l'Égypte, puissant cadre, dynamique, charismatique, on écoutait Moïse partout. Et il a senti une flamme dans son cœur. Il a dit, ça y est, je suis investi d'une grande mission, je vais être le libérateur de mon peuple. Et vous savez comment il s'y est pris, maladroitement. Il a frappé trop fort un Égyptien. Et ça l'a conduit à 40 ans d'exil. Et Dieu n'est revenu le chercher que 40 ans plus tard, perdu dans le désert du Sinaï, en train de garder les moutons de son beau-père. Je pense que Moïse avait fait une croix sur sa carrière de cadre. Il avait fait une croix sur la carrière en Égypte. Il allait terminer comme un simple berger dans les montagnes du Sinaï. Et c'est à ce moment-là où cet homme avait un problème d'identité, ne savait plus trop ce qu'il était devenu, que Dieu vient le chercher et dit « Je t'envoie vers Pharaon. » Le temps s'était écoulé, mais le temps avait forgé la personnalité de Moïse. Le temps avait préparé Moïse à la mission qui allait être la sienne. L'école avait été efficace, puisqu'il nous est dit que Moïse était devenu l'homme le plus patient de la terre. Je vais vous dire, hein, ou le plus humble, ou le plus doux, le plus patient de la terre. Finalement, 40 années de désert, ça avait fait son travail. Ça avait produit ce que Dieu voulait. Et il en a eu bien besoin de patience par la suite pour conduire le peuple d'Israël, parce que tous les jours, il avait une manifestation devant sa tente avec des banderoles. Donc, il fallait supporter tous ces gens qui manifestaient contre lui. Et il lui fallait une dose de patience. Isaac a dû attendre aussi. Quand il s'est marié avec Rebecca, il a pensé que sa femme aurait rapidement des enfants. Eh bien non, elle était stérile. Comme quoi, Dieu aime les difficultés quand même. Sarah était stérile et recommence avec Rebecca, encore stérile. Et Isaac a prié. Et dans un verset, il nous est dit que c'est 20 ans plus tard qu'Ésaü et Jacob sont nés. Il avait 60 ans. 20 années s'étaient écoulées et 20 ans, c'est quand même long. Donc, c'est pas une semaine ou deux. Ça prend du temps. On a évoqué, je crois que c'était hier soir, Joseph, le patriarche Joseph, le jour où il a eu les songes, qu'il avait 17 ans. Les songes se sont réalisés, il en avait 39, à peu près. 22 années se sont écoulées entre les premières alertes du Seigneur, les songes, et la réalisation de ces songes, des promesses de Dieu. On pourrait parler de Lazare, le frère de Marthe et Marie. Lazare est allé en s'empirant, l'état se dégradait. Alors Marthe et Marie ont fait appel à Jésus, évidemment, puisqu'elle le connaissait bien. Il avait souvent pris un repas chez eux, à Béthanie. Et voilà qu'il n'y a plus de réponse, aucune réponse. Jésus n'a pas donné signe de vie. Et il n'est pas venu. Elles ont dû se poser des questions. Mais pourquoi ne vient-il pas? Pourquoi ne répond-il pas aussi vite à notre prière? Pourtant, les relations sont bonnes entre lui et nous. Et nous ne sommes pas fâchés, lui non plus. Tout va bien, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Elles ne pouvaient pas comprendre. Et on sait que Jésus est arrivé une fois que la dépouille mortelle de Lazare a été mise dans le sépulcre. Et quand Jésus est arrivé, Marthe et Marie disent « c'est trop tard, c'est trop tard ». Mais voilà, pour Dieu, ça n'est pas trop tard, ça n'était pas trop tard, parce que Dieu maîtrise toutes choses. Et le miracle que Jésus a opéré a été certainement encore à donner une plus large publicité, j'allais dire, à la puissance de Dieu et à la grâce de Dieu, que si Lazare avait été guéri. Tout le monde parlait de la résurrection de Lazare, et même on voulait faire mourir Lazare. Comme on voulait faire mourir Jésus, on voulait faire mourir Lazare parce que c'était quand même quelqu'un qui posait problème. Il était là sous les yeux, c'était un ressuscité. Mais il a fallu attendre quelques jours. Et dans le psaume 106, au verset 13, vous pourrez lire qu'il y a un reproche qui est fait à Israël dans le désert. Ils n'ont pas su attendre le dessein de Dieu, les desseins de Dieu. Savoir attendre les desseins, l'exécution des desseins de Dieu. Ça ne sert à rien de vouloir faire en sorte que le dessein de Dieu s'accomplisse par nos forces et nos stratégies. Dieu n'ira pas plus vite pour autant. Lui, il suit son calendrier et le mieux que nous ayons à faire et ce qui va contribuer à la forger notre foi, c'est savoir attendre l'exécution du dessein de Dieu. Dieu est assez grand, assez sage et assez fort pour faire ce qu'il a prévu de faire et le réaliser. Il n'a pas besoin de notre aide. Ce qu'il attend de nous, c'est simplement que nous lui fassions confiance et que nous attendions à lui en nous reposant sur lui. Autre école à laquelle nous pouvons être soumis parfois, et ça arrive, ça arrive, ça m'est arrivé, ça vous est peut-être arrivé, si ça ne vous est pas encore arrivé, j'ai une mauvaise nouvelle, ça pourrait vous arriver. Les silences de Dieu. Alors, le ciel est d'airain, vous priez, rien ne se passe. Rien ne se passe, et on prie, on cherche le Seigneur, rien ne se passe, pas de réponse, pas de parole, pas de message, le prédicateur ne nous encourage pas dans ses messages, il n'y a pas de don spirituel le dimanche matin pour nous, on a l'impression que Dieu nous a laissés sur le côté de la route, hein, et les silences de Dieu. Et on retrouve ça dans le livre des psaumes, j'ai sous les yeux le psaume 13, verset 2, « Jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face ?» Ou encore le psaume 22, verset 3, « Mon Dieu, je crie le jour et tu ne me réponds pas. » Ça vous est jamais arrivé, mais ça arrivera peut-être un jour. Les silences de Dieu. Dieu reste silencieux. Et là, on se dit, qu'est-ce qui le fâche? Pourquoi? Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ma vie? On fait une introspection. Et peut-être qu'il n'y a rien à trouver, d'ailleurs. Mais pendant ce temps, Dieu travaille notre foi. Il fait en sorte que notre foi ne s'appuie pas simplement sur une expérience, une émotion, une belle prédication, une bonne réunion. Notre foi doit s'approfondir, et même si Dieu ne dit rien et que nous sommes dans la nuit ou le brouillard, notre foi conserve le même cap et elle sait qu'elle a de bonnes raisons de se confier en Dieu qui est souverain, amour, vrai, fiable et miséricordieux et bon. Je disais hier ou avant-hier, je ne sais plus, Abraham a dû attendre parfois des années. Et je citais entre Genèse chapitre 16 et Genèse chapitre 17, vous avez 13 années qui s'écoulent où Dieu ne dit pas un mot. Il n'y a pas un mot. Dieu ne s'adresse pas à Abraham pendant 13 ans. C'est long, hein? Un culte tous les 13 ans, c'est long. Hein? Une réunion tous les 13 ans, vous vous rendez compte, ça serait long. J'ai fait partie de ceux qui ont fait le service militaire. Je me suis retrouvé en Allemagne. Eh bien, les réunions étaient rares. Les réunions étaient très, très rares. Il fallait vivre un peu sur les réserves et avec sa Bible. Et là, quand c'est le silence comme ça, pour moi, ça a été une période de silence. En plus, je me souviens, on m'avait mis dans le peloton des engins blindés sur roues, là, pas sur chenilles, mais sur roues. Les engins blindés rapides, et je devais aller faire un stage à Marseille de 6 semaines. Alors j'étais tout content, j'ai dit « Ah, je vais revoir la France, et là à Marseille, je pourrais bien trouver du temps pour aller au culte et revoir des frères et sœurs ». Et donc j'ai suivi la formation, le permis poids lourd, formation du permis poids lourd, et quand j'étais à 2 jours de passer le permis poids lourd, on me dit « Vous êtes muté aux transmissions et vous partez un peu plus loin en Allemagne, au nord, dans la vallée du Rhin ». Et là, je peux dire, et on m'a dit, ça à 7h30, on m'a dit « À 8h30, vous montez dans le camion et vous partez ». Il a fallu vite faire les bagages. Et je peux vous dire que j'étais dans le camion, dans la benne du camion, mais là, j'avais l'impression, oui, que le ciel était fermé, que Dieu ne parlait plus, et j'étais tout seul. Après, je n'ai pas regretté, parce que j'étais mieux placé, quoi. J'étais aux transmissions, j'étais mieux placé que dans les engins blindés, mais il y a des moments comme ça, vous traversez, Dieu ne dit rien, les choses se passent, et vous ne savez plus trop où on va aller, où on va atterrir, hein. Les silences de Dieu. Mais avec l'expérience, on apprend à se confier en Dieu et à dire ben, « Seigneur, je sais, tu ne me parles pas, mais je sais que tu as les yeux ouverts et les oreilles attentives, et je sais que ma vie est entre tes mains, et il agira, comme dit le psaume 37, et il agira. » Marthe et Marie, que je citais tout à l'heure pour Lazare, ont connu le silence de Jésus. puisqu'il n'a pas envoyé un texto en disant « je suis retardé, attendez un petit peu, ça va venir ». Il n'a pas envoyé un message « sincère condoléance » et « j'arrive pour les obsèques, attendez ». Non, non, rien du tout. Silence total. Et quand nous lisons le chapitre 11 de l'évangile de Jean, bon, nous savons comment ça se termine, donc on est tout content. Mais quand on vit les situations, c'est différent. C'est tout différent. Et si on se met dans la peau de Marthe et de Marie, eh bien, on se dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi Jésus n'est pas intervenu? Les silences de Dieu. La foi des disciples a été mise à l'épreuve dans la barque sur le lac de Galilée en pleine tempête. Que faisait Jésus? Il dormait. Eh bien, les disciples ont fait ce que nous avons envie de faire, c'est de réveiller le Seigneur. De temps en temps, on dit, alors, ça va mal, il y a des vagues, il y a du vent, il y a de l'eau dans la barque déjà, et toi, tu fais rien. Sors du silence. Eh oui, un jour ou l'autre, ça nous arrive de passer par cette école. Elle fait partie du programme pédagogique de Dieu, et le but, c'est de forger notre foi, la fortifier et de faire en sorte qu'elle soit bien enracinée dans la parole de Dieu, dans les promesses de Dieu. Autre école aussi, ce sont les méthodes que Dieu utilise avec nous. Parfois, il a des méthodes qui ne sont pas raisonnables, enfin en tout cas, qui ne collent pas avec notre raison et avec nos calculs. On se dit, mais ce n'est pas possible. Et pourquoi Dieu me demande ça à moi, il ne le demande pas à l'autre? Et parce que Dieu sait que j'ai besoin de passer par là pour enraciner ma foi. Alors là, j'ai quelques exemples sous les yeux. C'est le plan de campagne de Jéricho, de la campagne de Jéricho. Donc Dieu donne un plan de campagne à Josué, voir chapitre 6 de Josué. Et Dieu lui dit, voilà, vous allez faire le tour de la ville une fois par jour, pendant 6 jours. Et le 7e jour, vous ferez 7 tours de la ville. Donc Josué réunit son état-major et dit, voilà le plan de campagne reçu du Seigneur, on va faire chaque jour un tour de la ville et le 7e jour, nous ferons 7 tours. Et j'imagine les généraux, et alors, qu'est-ce qui va se passer? C'est quoi ce plan de campagne? Ça tient pas la route. Tu vas nous amuser comme ça, faire une promenade tous les jours, et puis on va faire le dernier jour, on va faire 7 fois la même promenade, et ça va suffire pour avoir la ville. C'est vrai que ça paraît bizarre comme méthode. Surtout que la ville de Jéricho, selon les archéologues, étaient une ville imprenable pour les armées de l'époque, puisqu'il y avait une double muraille tout le tour. Bon, la maison de Rab était à cheval sur les deux. Et c'était imprenable pour les armées de l'époque. Et dire, eh bien, face à une ville pareille, on va juste faire le tour, et puis voilà, c'était pas raisonnable du tout. Et pourtant, la méthode a marché. Ce n'était pas dans les calculs des hommes. Mais quand ils ont crié à l'Éternel le 7e jour et la 7e, j'allais dire, randonnée, le 7e tour, il y a eu un tremblement de terre, quelque chose s'est passé et les murailles se sont écroulées. Sauf l'endroit où il y avait la maison de Rahab. Tout le reste s'est écroulé. La ville a été livrée complètement aux armées israéliennes. Sans problème, les tribus sont entrées dans la ville et ont pris possession. Les méthodes de Dieu sont parfois étonnantes. Celle qui me fait le plus sourire chaque fois que je lis le récit, c'est l'histoire de Gédéon. Quand Dieu lui demande d'aller combattre les Madianites, qui sont des milliers et des milliers, des centaines de milliers, et il lui dit, tu vas réunir une armée. Alors, bien sûr, Gédéon lève des hommes, il lève une armée. Et puis Dieu dit, ah non, ils sont déjà trop nombreux, il faut en éliminer quelques-uns. Alors Gédéon dit aux peureux de rentrer à la maison, et puis là, ils sont nombreux à partir. Et il en reste que 10 000, je crois. 10 000. Oui, 10 000. Et Dieu lui dit, oh, ils sont encore trop nombreux. Oui, mais en face, ils sont des centaines de milliers. Oui, mais 10 000, c'est beaucoup trop nombreux encore. Et Gédéon ne paraît pas être quelqu'un de... Comment dire, avec une personnalité dynamique, etc. C'est le dernier de la famille, c'est une petite famille. Il broyait donc le blé dans le pressoir. Il se mettait à l'abri. Enfin, on ne voit pas quelqu'un qui a fait des exploits et que Dieu va chercher quelqu'un qui a fait des exploits. Non, non. C'est vraiment peut-être celui auquel on n'aurait jamais pensé. Et Dieu lui dit, eh bien, attends, pour faire le tri, tu vas les faire boire le long de la rivière, là, sur le bord du ruisseau. Et selon comment ils vont boire, soit ils vont boire comme un chien, ils vont laper l'eau, soit ils vont porter à la bouche. Enfin, selon la technique, tu les mets de côté. Alors, Gédéon, on les met de côté. Toi ici, toi là, toi ici, toi là, toi ici, toi là. Et à la fin, donc, il se souvient de ce que Dieu lui a dit. Ceux qu'il doit retenir, il les compte. Ah oui, mais ils ne sont pas nombreux. Ils ne sont plus que 300. De l'autre côté, ils sont 9 700. Et là, ils ne sont que 300. La tentation humaine, c'est de prendre les 9 700 plutôt que les 300. Et Dieu lui dit, c'est avec ces 300 que ça va se passer. Vous connaissez la suite du récit. Bien sûr, il y a quand même eu une tactique de la part de Gédéon en pleine nuit avec les cruches, les flambeaux et les trompettes. Ils ont pris par surprise les ennemis, mais quand même, avec 300, ils ont mis en déroute toute une armée de Madianites. Et j'ai lu quelque part, je ne sais plus où, que ce récit était resté dans les annales militaires d'Israël. Hein, c'est une référence. Oui. Les méthodes de Dieu peuvent nous échapper. Ça arrive. Et dans cette méthode, il faut faire confiance à la méthode de Dieu. On peut toujours être conseillé avec le Seigneur. On peut toujours lui dire, non, c'est pas comme ça qu'il faut s'y prendre. Mais Dieu s'en tient toujours à sa méthode. Et une dernière forme d'école à laquelle notre foi peut être soumise, ce sont les revendications de Dieu. Il arrive parfois que Dieu nous demande à nous quelque chose qu'il ne demande pas aux autres. Ça m'est arrivé, et je me souviens, j'étais un jeune à l'époque, en fin d'adolescence, et je passais par un chemin et je priais comme ça, « Seigneur, mais pourquoi tu me demandes à moi de passer par ce chemin ?» Alors que tu vois tel autre, alors j'en avais en mémoire des exemples, tel autre, tel autre, tel autre, tel autre, tu ne lui demandes pas de passer par ce chemin. Pourquoi moi et pas les autres? Et quelques jours plus tard, je me souviens, je feuilletais le petit livret Trésor quotidien édité par Viens et Vois, et tout à coup mes yeux se sont portés sur un feuillet. Toi, suis-moi, qu'importe les autres. Oula! J'y ai vu quand même comme la réponse à ma prière. Et à partir de ce moment-là, je n'ai plus regardé le chemin des autres, je n'ai plus regardé les autres, je me suis efforcé de regarder au chemin que le Seigneur avait tracé pour moi et d'accepter les revendications que Dieu pouvait mettre sur ma vie alors qu'il ne les mettait pas forcément sur la vie des autres. Dieu sait quelle revendication il doit mettre dans notre vie. Parce que celle qui marche avec nous ne marche pas automatiquement avec quelqu'un d'autre. Nous n'avons pas tous les mêmes points forts et les mêmes points fragiles. Nous avons tous des choses où nous sommes plus sensibles que d'autres. Nous sommes tellement différents. Et Dieu sait là où il doit mettre le doigt pour nous faire grandir. Chez quelqu'un d'autre, il mettra le doigt ailleurs. Et quand vous parlerez avec l'autre, vous direz, ah ben moi, je n'ai jamais vécu ça, je n'ai jamais connu ces choses-là. Et l'autre personne dira, ah ben moi, c'est un autre domaine que ça s'est passé. Et oui, Dieu, parfois, peut avoir des revendications très précises dans notre vie Mais le seul but de ces revendications, c'est de forger notre foi, de nous aider à passer dessus la difficulté en faisant confiance à Dieu, en nous souvenant toujours, comme je disais dimanche matin, que Dieu est souverain, qu'il est amour, qu'il ne peut vouloir que du bien, que Dieu est bon, qu'il est fidèle, qu'il est vrai et qu'il est fiable. À partir du moment où on a une très bonne connaissance de la nature de Dieu, on est prêt à affronter, j'allais dire, ses revendications. Je ne dis pas que c'est facile, jamais je dirais que c'est facile, parce que Dieu dose en plus juste ce qu'on peut supporter. Et une fois, en vous disant cela, je pense à un entretien, c'était dans l'Assemblée de Royan, à la sortie d'un culte, et j'avais dû prêcher quelque chose de semblable, et à la sortie, il y a une dame qui m'arrête et qui me raconte toutes ses misères. Elle raconte toutes ses misères, mais elle les racontait de telle sorte qu'elle voulait que je la plaigne, quoi. Je la plaigne. Et je ne suis pas entré dans le circuit. Et je lui ai dit, « Ah, mais vous savez, si le Seigneur a permis toutes ces choses et vous les avez passées, c'est qu'il savait que vous pouviez les supporter. » Du coup, ça a coupé court à la conversation. Elle n'a pas voulu en rajouter. Mais c'est vrai, le Seigneur sait, et c'est 1 Corinthiens 10, 13, Dieu sait l'épreuve que nous pouvons supporter, et dans sa fidélité, et c'est toujours la fidélité de Dieu, il ne permettra pas que nous soyons éprouvés au-delà de nos forces. Mieux que ça encore, avec la difficulté, il a prévu le moyen d'en sortir, et d'en sortir, j'allais dire, par la grande porte, c'est-à-dire victorieux. Car la volonté de Dieu, c'est de nous emmener dans le triomphe de Jésus-Christ. Pour illustrer ces revendications, cette école de revendications, bien encore Abraham, il a subi toutes les écoles, lui, Abraham, hein, tous les cours, il a eu tous les cours de la foi. Abraham, qui a été conduit à sacrifier son fils Isaac, c'était une revendication folle, qui ne colle même pas avec la nature de Dieu. C'est... Bien sûr, Abraham n'avait probablement pas la connaissance de Dieu que nous avons, puisqu'il a appris à connaître Dieu au fur et à mesure qu'il a cheminé. Mais imaginez ça, le fils promis, qu'il a attendu pendant 25 ans, et voilà que maintenant Dieu lui demande de le mettre en sacrifice sur un autel. Comme je disais précédemment, les 3 nuits ont dû être longues, et le voyage a dû être interminable. Et quand Isaac a dit, eh ben oui, mais il y a le bois, il y a le feu, mais il n'y a pas l'agneau. Je ne sais pas ce que ça a fait au fond d'Abraham, mais ça a dû pincer là où ça faisait mal. Il a eu donc cette parole admirable de sagesse, Dieu pourvoira. Et c'est vrai que Dieu a pourvu, mais la revendication était très élevée pour Abraham, très haute. Naaman, le Syrien, qui est venu suite au témoignage de la petite fillette esclave. Quand il est arrivé devant l'habitation du prophète, il s'était fait le film dans sa tête. Attends, le chef d'état-major de l'armée de Syrie qui arrive, ça ne passe pas inaperçu quand même. La presse va être là. Les médias seront présents, les caméras, etc. Et en direct, on va assister à la guérison du général syrien. Il s'était fait le film. Et dans ce film, il s'était mis à l'honneur. Il pensait que les honneurs allaient lui revenir. Le prophète n'a pas été très poli. Il n'est même pas sorti. Il n'est même pas sorti. Il a envoyé quelqu'un porter la nouvelle. Et quelle nouvelle ? Tu vas aller te plonger 7 fois dans le Jourdain. Ça n'a pas plu, et je comprends. L'orgueil de cet homme a été bousculé, mis à mal. Mais pour guérir les gens, Dieu n'a pas demandé à tout le monde de se baigner 7 fois dans une rivière. Il l'a demandé à Naaman. Pour certaines raisons, il a demandé à Naaman, c'est une revendication qui est simple, juste dans la vie de Naaman. Et Naaman a dû se plier à cette revendication quand il s'est plongé, alors j'imagine que là, bon, il s'est plongé une fois, il a dû regarder, ben non, rien n'a bougé. Il a dû se plonger deux fois, et puis sous l'œil de ses subalternes, lieutenant-colonel, colonel, enfin, etc., commandant, capitaine, tous les soldats étaient là et regardaient ce qui se passait. C'est vrai que ce n'était pas une posture qui allait dans le sens de l'orgueil, qui flattait l'orgueil et l'amour-propre de Naaman. C'était quand même une situation humiliante pour Naaman. C'est une revendication qui le poussait à l'humiliation. Et il y a eu dans son entourage un soldat qui l'a conseillé, qui était très sage. Il dit, si le prophète t'avait demandé quelque chose de difficile, tu l'aurais certainement fait. Sous-entendu, par orgueil, par amour-propre et pour la santé, tu l'aurais fait. Là, il te demande quelque chose de facile, c'est tout simple. Certes, c'était facile à faire, mais pour l'orgueil, c'était compliqué. Et l'orgueil, parfois, c'est un problème. Hein. C'est un gros problème. Et il est passé quand même au-dessus. Et bon, la sixième fois, peut-être, il a regardé, ben non, c'est toujours pareil. Il a fallu aller jusqu'au bout de l'obéissance. Il a fallu se tromper 7 fois. Il aurait pu essayer de négocier avec le prophète. Bon, tu dis 7, moi je dis 1. Une fois, ça sera bon. Non, non, il a fallu aller jusqu'au bout de la revendication. Mais la 7e fois, quand il est sorti de l'eau, il était guéri. Quand le prophète a été envoyé à Sarepta, le prophète Élie, il a été envoyé à Sarepta. Dieu lui dit, j'ai ordonné à une veuve de te nourrir, te prendre en charge. La sécheresse sévissait. Et quand le prophète arrive dans la région de Sarepta, il croise cette veuve qui était en train de ramasser du bois. Elle allait faire son dernier repas. Elle était au bout du rouleau, matériellement parlant. Au bout du rouleau, c'était son dernier repas. Il lui restait juste un peu d'huile et un peu de farine. Elle avait un fils auquel elle devait tenir, elle était veuve, et il ne lui restait que ce fils-là, en souvenir de son mari. Mais elle n'était même pas en mesure d'assurer la survie de son fils. C'était le dernier repas. Je ne sais pas si vous imaginez ce que ça veut dire. Si vous êtes au bout, il n'y a plus rien, il reste juste de la farine et de l'huile pour un repas et pas plus. Et après, on ne sait pas. Le prophète arrive. Oui. Il demande un gâteau pour lui. Il demande un gâteau pour lui. Cette brave mère aurait pu dire, attends, t'es bien gentil. Un, on ne se connaît pas. Bon, moi, je suis pas d'Israël. Toi, t'es d'Israël. Mais on ne se connaît pas, et tu arrives comme ça, et tu dis, fais-moi un gâteau. Alors que mon fils, lui, il attend pour manger. Et c'était une revendication. La foi de cette femme a été mise à l'épreuve. Mais Dieu n'a pas demandé ça à tout le monde. Il l'a demandé précisément à cette femme. Et elle s'est appuyée sur la parole de ce prophète qui lui annonçait que elle n'aurait pas à craindre pour l'avenir, qu'elle aurait à manger, qu'elle aurait de l'huile et de la farine. Elle s'est appuyée là-dessus et elle a osé faire le repas pour le prophète, le gâteau pour le prophète. Et la suite du texte nous dit que Dieu a été fidèle. Pendant que Akab abattait ses chevaux, parce qu'il n'y avait plus à manger et à boire, elle, tous les jours, pendant le temps de la sécheresse et de la famine, elle avait sa farine, son huile, livrée tous les matins à la maison. Et elle pouvait faire, elle était assurée de pouvoir manger comme ça, faisant confiance à Dieu. Peut-être que chaque jour, quand elle revenait, elle regardait les niveaux pour voir si c'était toujours pareil, et les niveaux étaient toujours les mêmes. Il n'y en avait peut-être pas plus, mais il y avait toujours le même niveau. Elle a osé l'épreuve, surmonter l'épreuve, la revendication du prophète. Et on pourrait certainement trouver beaucoup d'autres exemples comme ça, dans lesquels on voit comment le Seigneur a demandé quelque chose à l'un, quelque chose à l'autre. Il n'a pas demandé les mêmes choses à tout le monde, parce qu'il sait ce qui peut contribuer à notre croissance et à notre progrès. Alors, quand nous serons passés par toutes ces écoles, notre foi aura été travaillée, elle aura été forgée, elle aura été fortifiée, et nous aurons alors la foi que Dieu veut voir se révéler dans sa gloire. Nous aurons pour prix de notre foi le salut et la gloire éternelle. Nous partagerons ces choses que Dieu nous a promises. En attendant, quel que soit le cours auquel nous sommes soumis à l'école de Dieu, gardons le cap. La vision finale, c'est participer à la gloire éternelle de Dieu, l'espérance de la gloire. Ce texte revient souvent. Vous savez qu'avec le temps, cette vision peut se flouter. Quand on découvre l'amour de Dieu, le salut, la grâce de Dieu, par la prédication de la croix, tout de suite on est émerveillé, ça donne un sens à notre vie, et une vision de ce qui nous attend. Mais après, en cheminant à cause des difficultés, des combats, des batailles, et de toutes les étapes qu'on a pu vivre, la vision de la gloire de Dieu peut se flouter, devenir moins précise. Et si elle est moins précise, elle est moins motivante pour nous. J'ai eu un jour un jeune frère stagiaire, j'avais pris, il venait de l'ITB, et il était venu pour un premier contact, c'était en janvier, mois de janvier, donc en janvier, dans les Pyrénées, il y a de la neige, généralement. Et quand on arrive de Bordeaux, donc qu'on passe par Toulouse, après Toulouse, on a une vue splendide sur la chaîne des Pyrénées, sur 400 km de chaîne. Enfin, on ne voit pas les 400 km, mais pas loin. Et donc, il a été émerveillé, parce que comme il venait de Béthune, les Pyrénées, c'est loin, quoi. C'est plutôt plat à Béthune, à part les terrils, mais sinon c'est plat. Et il me dit en arrivant, wow, « c'est beau, vous habitez une belle région, c'est formidable, c'est Pyrénées avec un manteau de neige et tout. Voilà. » Il était émerveillé par le spectacle. Et puis finalement, il est venu travailler avec nous. Et 6 mois plus tard, après son arrivée, 6 mois plus tard, il me dit, « Monsieur Blanc, je ne vois plus les Pyrénées enneigées. » « Ah bon, qu'est-ce que tu vois ?»« Je vois mes soucis. » « Je vois mes soucis. » Et oui, la vision peut se flouter. Même la vision de la gloire de Dieu, elle peut se flouter. Parce qu'on est découragé. Parce qu'on est lassé. Parce qu'on n'y croit plus trop. Et puis c'est interminable, le chemin est interminable. Oui, ce que Dieu a promis, il le réalisera. Nous partagerons la gloire éternelle de Jésus-Christ. Nous partagerons la félicité éternelle que le Seigneur nous a promise. Mais en attendant, il met notre foi de temps en temps à l'épreuve pour que cette foi soit une foi de qualité, une foi qui a fait ses preuve. Alléluia. Voilà le programme. Il ne reste plus qu'à avancer en faisant confiance au Seigneur. On le remercie de ce que nos vies sont entre ses mains et de ce que lui, il veille sur nous et il ne permettra jamais que la difficulté soit au-dessus de nos forces. Seigneur, notre Dieu, notre Père, quand nous regardons ton plan à notre égard, nous reconnaissons que c'est un plan ambitieux, mais aussi, même si nous ne le comprenons pas toujours, nous croyons que c'est un plan sage. Même si notre foi est mise à l'épreuve, Seigneur, nous savons que toi, tu sais ce que tu fais et tu sais ce que tu vas faire. Tu as le pouvoir de retourner les circonstances, tu as le pouvoir de retourner toutes les choses que nous côtoyons et en faire quelque chose qui contribue à notre avancement, qui contribue à notre progrès, et qui finalement contribue à un meilleur témoignage encore et à la gloire de ton nom dans nos vies. Seigneur, nous avons médité ta parole durant ces jours sur ce thème de la foi. Nous te prions pour que ce que nous avons partagé puisse nous fortifier intérieurement, nous aider, Seigneur, à nous appuyer sur toi, à compter sur toi, nous aider à rechercher ta face, à rechercher ton secours, à rechercher tes promesses. Nous te prions, Seigneur, pour que tu nous façonnes, pour que nous parvenions à la maturité que tu veux, que nous parvenions à l'image de Jésus-Christ, comme nous dit l'Écriture, ceux qu'il a appelés, il les a prédestinés à devenir semblables à l'image de Jésus-Christ. Eh bien, Seigneur, tu as commencé un travail dans nos vies. Nous voulons te dire, oui, nous voici, Seigneur. Poursuis ce travail, accomplis-le, afin que nous soyons d'authentiques témoins de Jésus-Christ dans la cité où nous sommes, dans la famille où nous nous trouvons, dans le quartier ou sur le lieu du travail. Que par notre vie, Seigneur, on puisse respirer le parfum de la bonne odeur de Christ. Que par notre vie, on puisse voir Jésus-Christ. Que par notre vie, on puisse voir qu'il y a quelque chose de différent, quelque chose que l'on ne retrouve pas ailleurs. Oui, Seigneur, nous savons que c'est à cela que tu travailles en nous et nous voulons avoir cette docilité, nous soumettre à ta volonté. Sois loué, sois béni et sois glorifié dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, c'est en exposant l'argile aux intempéries, dit un potier, qu'on améliore sa plasticité.